Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde, bonjour Corinne.
Très bonne année à vous
c'est
tous,
ce que j'allais dire.
Chères auditrices, auditeurs. Mais oui, c'est la première de l'année, Didier.
C'est ça, commençons par là.
Donc on se souhaite tout plein de bonnes choses,
voilà.
De la sérénité,
exactement,
une bonne
monde.
Santé, du bonheur.
Tout voilà. Ce qu'ils ont besoin, il n'y a pas de souci.
Bon, on en trouve un peu du bonheur en écoutant Radio Alpa et Asialogie,
j'espère,
je crois.
J'espère.
Hein en tout cas, on espère.
On y met tout notre cœur, donc c'est le principal.
C'est ça. Alors aujourd'hui, Didier, on retourne dans la cité interdite à Pékin.
D'accord.
Pour y découvrir encore quelques secrets, même je dirais de nombreux secrets.
Okay.
Et surtout avec toi Didier, parce que tu vas nous parler de personnages qu'on connaît très peu, finalement
oui.
On en parle.
Oui, on le connaît le nom mais c'est tout.
Oui, c'est un petit peu ça.
D'accord.
Des personnages qui peuvent avoir un pouvoir très important, qui résidaient en permanence dans la cité interdite.
Oui.
Tu vas nous parler des eunuques.
Eh oui. Mais bon, avant de parler des eunuques, Corinne... dans une de nos dernières émissions, comme tu l'as dit, tu avais évoqué le concept de cité interdite.
Oui.
Mais sans nous expliquer comment est née celle de Pékin. On était resté très général. Là,
oui.
On va se concentrer sur Pékin.
Oui, Didier, j'avais parlé seulement du concept, en gros.
Oui.
Mais cette fois, on va se centrer sur celle de Pékin, qui a été donc bâtie, ça je l'avais un petit peu dit
oui,
quand même.
Oui, on en avait parlé, bien sûr.
Par la dynastie Ming.
Oui.
Qui a succédé à la fameuse dynastie mongole Yuan
oui.
En 1368.
Mmh.
Donc la dynastie Ming restait longtemps aussi.
Oui,
hein.
Bien sûr.
Alors tout d'abord, les Ming s'étaient installés à Nankin, Nanjing, dans le nord. Mais à la suite d'une guerre civile locale et suite à l'usurpation du trône
okay.
Par l'empereur Yongle en 1403,
oui.
C'est Pékin, Beijing en chinois, mmh. La
oui.
Capitale du nord, qui va redevenir le centre politique du pays, et qui l'est toujours d'ailleurs.
D'accord.
Alors c'est lui, l'empereur Yongle, qui, alors je pense qu'en chinois on dit Yongle, qui
d'accord.
A fait construire ce gigantesque palais de 981 bâtiments
ah oui.
Sur 72 hectares,
mm-hmm.
Répondant aux règles du Feng Shui,
d'accord.
Avec le nombre 9, symbole, chiffre parfait,
oui.
Symbole d'éternité et de perfection, comme je vous le disais,
eh oui, oui.
Qui est présent partout, hein, 9 travées, 9 portes, 9 rangées de clous sur les battants, il y a des 9 partout si
oui.
On compte dans la cité interdite.
D'accord, bah, d'ailleurs c'est même étonnant qu'il y ait 980 bâtiments et pas 999 bâtiments, mais bon.
Oui, mais
ça.
Bon, il y a sûrement
9,
un lien.
Hein, oui,
et puis 72, c'est 8 fois 9 quand même.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est
et 980. Et puis, okay. Le 8 est aussi un chiffre important en Chine.
Ok.
Les
bon,
deux,
ouais,
le
bien.
9 et le 8.
Très bien.
Mais le 9 est le chiffre parfait.
Alors Corinne, peux-tu nous dire comment a-t-elle été bâtie cette cité, cette nouvelle cité interdite et puis avec quels moyens surtout?
Oui. Alors le chantier a démarré en 1406 et s'est achevé en 1420, soit en 14 ans. Les moyens ont été colossaux, on imagine,
oui.
Comme tout ce qui est en Chine.
En Chine, voilà.
Voilà. Plus d'un million d'ouvriers ont été mobilisés, avec environ 100 000 artisans spécialisés hein, de tous les corps de métier. Toutes les provinces de l'Empire ont été contraintes de financer le projet. On savait
ouais.
Comment faire. Les matériaux étaient choisis étaient exceptionnels. Il y avait le fameux bois qui s'appelle Nanmu. C'est le cèdre blanc, en fait, le Nanmu,
d'accord.
Qui est très précieux, qui provient du sud-ouest de la Chine. Il y avait le marbre blanc pour les terrasses, qu'on
mm-hmm.
Peut toujours voir, hein, qui sont toujours là. Et les terrasses et les rampes sculptées. Les briques dorées de Suzhou, qui sont réputées pour leur résistance. Et puis les fameuses tuiles vernissées jaunes,
les
couleur impériale,
mmh, bien sûr.
La couleur jaune interdite au peuple,
mmh.
Bien sûr.
Mmh.
Alors le transport des blocs de marbre est resté célèbre. Certaines pierres de plus de 300 tonnes ont été déplacées en hiver sur les routes glacées pour faciliter la glisse.
Eh oui,
ils avaient trouvé le système.
C'est pas idiot, c'est sûr que ça marche mieux sur des routes glacées
voilà.
Pour que ça glisse,
et
c'est parfait.
Quitte à en plus arroser les routes. Hein.
J'imagine.
Alors, les premières années ont été consacrées à la préparation du terrain et à la construction des murailles, des douves. Alors, les douves, elles font 52 mètres de large quand même. c'est pas un petit fossé.
Non, c'est compliqué.
Et les portes qui ont été construites aussi sont monumentales.
Ça va de pair tout ça. Quoi.
Voilà, donc on a fait d'abord le cadre, on va dire le tour. Et puis, le cœur du palais va être construit au fil des années 1410-1417 et les résidences impériales plus tard. Jusqu'en 1420.
D'accord.
Voilà. Donc, après 14 ans de travaux, la cité interdite était quasi terminée. Mais il y a un incendie qui va détruire plusieurs salles un peu avant l'inauguration et Yangle ne s'y installera qu'en 1421.
Très bien.
Alors, il y aura bien d'autres incendies au fil des décennies suivantes, le feu étant le fléau des cités interdites.
Mais oui, alors justement, comment faisait-il pour tenter de prévenir les incendies et lutter contre le feu, tout simplement, parce que...
Ben oui, il y avait quand même des moyens. Alors, les constructions, pour rappel, étaient presque entièrement en bois huilé et laqué. Il y avait du marbre, bien sûr, mais les cloisons, tout ça, c'était en bois.
Bois huilé, forcément.
Toutes les charpentes, bien évidemment. Ce qui augmentait énormément le risque. Alors, de plus, avant l'électricité, il n'y avait que des lampes à huile, des chandelles, voilà, des braseros, pour avoir chaud, des feux de bois, pour la cuisine.
Oui.
Les activités rituelles aussi pouvaient être dangereuses avec les brûlages des papiers rituels, de l'encens, etc. Sans compter le climat qui est très sec dans le nord de la Chine, les vents du nord, on en avait parlé pour la fameuse fabrication de la neige au Japon, les vents du nord de Sibérie sont très secs.
D'accord.
Et très forts. Et puis, bien sûr, il y a aussi la foudre qui peut être responsable.
C'est ça.
Donc, ils avaient un des systèmes anti-incendie quand même très avancé. D'abord, il y avait un corps de pompiers impériaux qu'on appelait les forêts de dragons, qui étaient entraînés spécialement pour intervenir rapidement. Alors, il faut savoir qu'il y avait des bassins, enfin, il y a même toujours, autour de la cité interdite et dans les vieux quartiers, des grands bassins d'eau, des très belles bassines géantes, on peut dire. C'était les bornes incendie avant l'heure. Elles étaient remplies d'eau. Il y en avait un peu partout dans la ville et dans la cité interdite, bien sûr.
Et on pompait là-dedans quand il y avait besoin.
Et puis, les bâtiments les plus précieux étaient éloignés des autres et entourés de jardins pour servir de zone coupe-feu.
Oui, bien sûr.
Et il y avait, bien sûr, des gardes qui patrouillaient 24 sur 24 pour surveiller, mais ça ne suffisait pas. Voilà, une étincelle, c'est vite fait.
Ouais, ça, malheureusement, c'est rapide avec ce type de matériaux, ça va vite. Et Corinne, combien d'empereurs ont résidé dans la cité interdite depuis 1421 alors ?
24, Didier.
24.
Il y a eu 14 empereurs Ming jusqu'en 1644,
d'accord,
date de la chute de la dynastie. Et 10 empereurs de la dernière dynastie Manchu, Qing, qu'on connaît, là qu'on a connu avec Puyi. Alors la cité a été pillée plusieurs fois, mais elle est restée intacte. La dynastie Qing a connu au XVIIIe siècle une grande prospérité et elle a enrichi le palais de pavillons supplémentaires avec des nouveaux jardins et avait ajouté des collections de meubles et d'œuvres d'art absolument inestimables et incroyables. Alors, cette vie d'opulence dans la cité a duré jusqu'en 1911, date de la chute de Puyi après la première révolution chinoise.
D'accord, alors on est rentré dans la cité, on a vu ses dangers aussi, ses faiblesses, mais c'est quoi la vie quotidienne d'un empereur dans la cité interdite ?
C'était pas très drôle, en fait.
Ah, oui.
On se souvient que la cité interdite était une ville fermée, avec ses règles, ses lois, sa hiérarchie. La vie quotidienne était très surveillée, et tout le monde était très surveillé, et très oppressante. L'empereur résidait dans des pavillons plus éloignés et les plus protégés, et sa vie n'était faite que de rituels et d'audiences liées pour la plupart à la gestion de l'État.
Oui.
Alors, la vie impériale commençait quand même à 5 heures du matin. Il se levait tôt, l'empereur. À 6 heures, il rencontrait ses conseillers, discutait des décisions à prendre. En fin de matinée, il allait à la bibliothèque ou dans les temples pour les rituels dédiés à ses ancêtres.
Bien sûr.
Et puis, l'après-midi était consacré à la famille et aux concubines.
D'accord.
Et puis le soir, il étudiait souvent et le palais se fermait complètement, surveillé en permanence par des gardes et des patrouilles.
Ah oui.
Bon, on va se faire une pause musicale après Didier, pour commencer l'année aussi. On va écouter Karine et c'est Ping Pong.
Ah.
可不可与你放胆嬉戏，忘掉日与夜那些黑期，不管身边几多无聊道理，手拖手与你演出好戏，游行直到夜晚多凄美，争取这一次走几千百里，沿途流伤，伤心的知觉也着紧，我认我认我爱得太过分，人群渐近，想改写你我命运，任天塌下亦前行，哪怕你说我天真，
toujours sur Radio Alpa 107.3 avec Asialogie. Et là, on va reprendre, après cette belle chanson, bien agréable, et les femmes, du coup, Corinne, dans la cité, comment vivaient-elles ? Toujours enfermées ?
Alors, l'impératrice et les femmes du palais vivaient dans la cour intérieure, Didier.
Ah, d'accord.
L'impératrice était la mère de la nation, la première épouse du roi, qui dirigeait officiellement le harem, qui avait une hiérarchie complexe, le harem. Hein.
Ah.
Alors, sous les Qing, alors je vais prendre, oui, parce que ça a changé au fur et à mesure des dynasties. Les Qing étant la dernière, je me suis référée aux Qing, sur la dernière des dynasties, la plus contemporaine, on
va dire.
Alors, le système officiel comprenait l'impératrice, l'impératrice douairière qui était la mère de l'empereur, les princesses qui pouvaient être les sœurs de... De l'empereur.
D'accord.
Ou les filles des
aussi, j'imagine. Voilà, des princesses.
Les concubines, qui étaient donc les autres femmes de l'empereur.
C'est
les dames de premier et de second rang. Et les servantes.
D'accord.
Alors, les plus élevées dans la hiérarchie avaient beaucoup de pouvoir sur le palais intérieur, donc le palais où il y avait les femmes, et parfois de l'influence sur l'empereur même.
Oui, j'imagine.
Alors, la plupart des femmes, en dehors des servantes, vivaient dans le luxe, mais pour les servantes, c'était du genre monde sans pitié. Hein. Elles étaient parfaitement interchangeables, à moins qu'elles attirent l'œil du roi.
C'est ça, c'était du petit personnel. Quoi.
C'était du très petit personnel, très maltraité.
Okay.
Alors, concernant les concubines, beaucoup à dire. Hein. Leur rôle était d'assurer l'héritage impérial, enjeu politique majeur, parce qu'il y avait quand même un taux de mortalité infantile important.
Ah oui.
Il fallait avoir beaucoup d'enfants, et plus on avait d'enfants, plus...
On garantissait la suite, c'est
ça ? On garantissait exactement la suite.
Okay.
Exactement, on avait plus de poids. Et les concubines représentaient l'ordre rituel, la pérennité de la dynastie donc, et l'équilibre politique entre grandes familles. Parce que s'ils pouvaient avoir qu'une impératrice, les concubines venaient aussi de très grandes familles pour la plupart.
Ah oui, ça arrangeait aussi.
Voilà.
D'accord.
Oui. Alors elles ne pouvaient sortir que rarement du palais et étaient surveillées constamment par les eunuques. Les concubines pouvaient être convoquées par l'empereur selon un protocole extrêmement strict. Et quand je dis pouvait, elles n'en étaient absolument pas garanties.
D'accord.
Et alors, il avait ses favorites.
J'imagine, oui, comme nos rois avaient leurs favorites.
Exactement.
Aussi. C'est le même principe, mais elles étaient choisies comment, ces concubines ? Alors, tu en as un petit peu parlé, il y a de l'arrangement là, mais...
Oui, il y avait des arrangements avec les familles, mais il y avait quand même une sélection très sévère et un concours impérial tous les 3 ans qui était destiné à l'intention des jeunes filles de 13 à 17 ans, pour la plupart issues de familles de mandarins, donc de fonctionnaires, donc de lettrés.
Oui.
Et c'était donc des filles de hauts fonctionnaires et de nobles, et parfois de familles modestes méritantes.
Ah.
Les critères étaient stricts, liés à l'apparence physique. Il fallait être belle, avoir la peau claire, être en bonne santé. Et puis, il y avait aussi le comportement qui était important, une très bonne éducation. Il fallait être disciplinée,
on peut imaginer
modeste.
Tout ça.
Voilà, le langage adapté. Et surtout, il fallait que sa famille soit d'une loyauté impeccable, soit loyal.
Oui, bien sûr.
Voilà, il y avait aussi bien évidemment la réputation morale
de
la
peur,
famille.
Forcément.
Tout à fait.
D'accord.
Alors, certaines d'entre elles ne devenaient pas concubines, mais plutôt servantes nobles ou dames de compagnie.
Oui.
Et puis après, bah, les servantes, c'était une autre forme de recrutement. Ce n'était pas des concubines. Mmh. Alors, c'était un vrai piège pour toutes ces femmes parce qu'une fois sélectionnées, les jeunes filles étaient conduites à la cité interdite et coupées du monde extérieur. Mmh. Elles devaient, en règle générale, alors renoncer à leur famille, à leur liberté de mouvement et surtout à tout espoir de mariage parce qu'elles appartenaient au roi.
Ah bah j'imagine.
Complètement.
Ah, oui, l'empereur les accaparait complètement.
Ben oui, même si ça ne l'intéressait pas lui,
oui.
La tradition faisait que toutes les concubines recrutées appartenaient au roi, de fait.
Ok. Alors comment elles s'occupaient en fait elles devaient avoir du temps et qu'est-ce qu'elles en faisaient de ce temps?
Alors elles avaient une vie extrêmement réglementée aussi, elles suivaient un emploi du temps strict, toujours surveillé par les eunuques, Didier, tu nous en parlais tout à l'heure.
Oui.
Elles passaient leur temps dans les prières, la lecture, la calligraphie, elles étaient cultivées quand même, et la philosophie confucéenne, bien évidemment. Mm-hmm. Elles, la broderie, beaucoup d'importance, la musique, et puis elles apprenaient tout ce qu'était gestion domestique.
Mm-hmm.
Elles avaient leur parole, elles avaient leur mot à dire dans la gestion du palais.
Oui.
Elles pouvaient aussi avoir des activités physiques comme le tir à l'arc ou la danse.
Ah oui.
Chaque jour, elles avaient des visites protocolaires pour l'impératrice, aux princesses. Elles assistaient quand même à toutes les cérémonies et aux fêtes impériales. Et quand elles se déplaçaient dans le palais, elles étaient toujours encadrées. Même dans le palais, elles n'avaient aucun contact direct avec les hommes autres que l'empereur.
Mmh.
Et cette vie, bien que somptueuse en apparence, était une existence de solitude et d'incertitude, Didier.
Oui, j'imagine. Mais alors, du coup, rencontrer l'empereur devait être le but de leur vie, alors, finalement.
Oui,
c'était le Graal, quoi.
Bien sûr, parce que leur rôle essentiel était d'avoir des enfants, et particulièrement un fils.
J'imagine.
Et la maternité leur permettait aussi une ascension sociale dans le harem. Une concubine qui mettait au monde un prince pouvait être élevée d'un ou plusieurs rangs.
Bien sûr.
Et aucune n'avait la garantie, comme je vous le disais, d'être appelée par l'empereur.
Mmh.
Et puis les eunuques jouaient en coulisses un grand rôle dans le choix et la sélection.
Bien sûr.
Donc il fallait être copine avec les eunuques,
c'est
ils devaient être copains avec les concubines.
Il y avait tout un réseau à avoir.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires
dans
de films, de séries là-dessus.
Bien sûr.
Il y avait de l'intrigue énormément. Alors, les eunuques, c'était eux qui consignaient chaque nuit passée avec l'empereur, parce que c'était pour déterminer la filiation en cas de grossesse.
Ouais.
Elles étaient hyper surveillées, mais l'empereur aussi.
Ouais.
Alors, c'était pour les concubines qui passaient les nuits avec l'empereur, c'était parfois le début des ennuis à cause des rivalités et des jalousies qui pouvaient être très violentes.
Ah, tout de même.
Et il y avait, oui, des alliances qui se formaient pour former des complots pour gagner les faveurs impériales et évincer des favorites qui pouvaient se retrouver elles-mêmes accusées de sorcellerie, poussées au suicide, j'en passe, et des meilleurs.
Ah oui, ça se crêpait sacrément le chignon.
Ah oui, 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 oui.
D'accord.
Oui, oui. Okay. Et la moindre erreur ou insubordination pouvait entraîner leur rétrogradation, la répudiation, l'incarcération dans les pavillons disciplinaires ou même la mort.
Eh oui. D'accord.
C'était pas très très drôle d'être concubine.
Pas que. Alors, du coup, que se passait-il quand elles avaient des enfants? On l'a dit un peu, mais est-ce que c'était plus facile?
Non, Didier, en général, c'était même plus difficile car leurs précieux enfants impériaux étaient confiés à d'autres mères.
Ah oui.
Et souvent élevés par l'impératrice ou par une princesse de haut rang pour réduire l'influence qu'aurait leur mère biologique.
Ah oui.
Et ainsi éviter les luttes internes. Parce qu'en fait, ils s'attachaient à d'autres femmes, d'autres familles.
D'accord.
Et cela pouvait être très douloureux pour les femmes, surtout pour les concubines de rang inférieur qui perdaient très vite contact avec leurs propres enfants.
Oui, ça devait être terrible.
Donc, ce n'était pas une vie très drôle.
Non, non, non. Mais du coup...
moins d'être favorite.
Ah oui, bien sûr, ça j'imagine. Mais que devenaient-elles à la fin de leur vie, alors?
Alors, plusieurs possibilités. Si elles avaient donné un héritier devenu empereur, elles devenaient impératrices douairières.
Ouais, ça...
Même si elles n'étaient pas l'impératrice au départ. Elles étaient quand même douairières ou mères impériales.
Mmh.
Voilà. Et elles jouissaient d'un pouvoir immense à ce titre-là.
D'accord.
Mais si l'empereur mourait, la nouvelle cour pouvait les garder dans le palais, mais les envoyer aussi dans un monastère.
D'accord.
Elles devenaient donc nonnes. Ou leur accorder une petite pension et une résidence à Pékin. Mais ça, c'était dans le meilleur des cas.
Oui.
La plupart restaient souvent dans une semi-retraite, dans des pavillons secondaires, vivant discrètement jusqu'à la fin de leur jour et se faisant toute petite, Didier.
Ah oui.
Non, c'était pas drôle, la vie
non,
des concubines.
Que,
On se fait une pause musicale, Didier.
Oui.
On va écouter Long Meizi. Et c'est encore une chanson chinoise.
Alors, ben on est en Chine.
是你之间是无靠无依，认识你毫无药可医。原本以为你只是短暂的插曲，从没想到竟成不朽的传奇。多少男男女女相聚分离，遇见你是千万分之一。管他时空拉开我们的距离，我只想和你在一起。一声声难了难了，往日的甜蜜欢笑和初朝，早知道难了难了，会不会路归路桥归桥。
C'était une jolie chanson, Didier. C'est dommage qu'on arrête.
Ah, bah c'est pas qu'on arrête, ça passe trop vite. Le sujet nous attend.
Bon, parle-nous des eunuques, Didier. Ce sont des personnages très importants dans la cité interdite.
Tout à fait, tout à fait.
Comment étaient-ils recrutés ?
Ah ah, comment ils étaient
recrutés ? Ça nous intéresse.
Je comprends que ça t'intéresse. Bah, tout d'abord, précisons que les eunuques étaient des hommes castrés hein, qui servaient l'empereur. Leur nombre était parfois supérieur à 3000 selon les dynasties.
Hein, oui.
Et leur pouvoir pouvait devenir immense. Comme tu l'as déjà évoqué, ils étaient les seuls hommes autorisés dans les quartiers des femmes. Leur recrutement était un processus complexe qui dépendait des besoins administratifs du palais. Les eunuques pouvaient venir de familles de trois grandes catégories en fait, sociales. Donc la première catégorie, c'est la plus courante, ce sont les familles pauvres qui vendaient leur fils pour obtenir de l'argent tout simplement,
ah oui.
Et puis lui offrir une vraie carrière et aussi obtenir la protection impériale. La seconde catégorie, ce sont les jeunes garçons orphelins sans aucune famille. Et la troisième, des jeunes hommes adultes cherchant une promotion sociale et un avenir, souvent des étudiants ayant échoué aux examens de fonctionnaires, espérant ainsi devenir intendant ou gestionnaire et échapper à la misère. C'était donc, sauf exception, des volontaires.
Oui, des volontaires. Et puis, bah, souvent, l'origine, c'était quand même un peu la misère.
C'est la misère qui les emmenait là. Quand même.
C'est ça. Alors, quels étaient les critères d'admission ? Parce que j'imagine qu'il y en avait, Didier.
Oui, une fois identifié comme candidat potentiel, l'homme ou l'enfant devait subir des examens préliminaires. Alors, vérification de l'âge, pardon, souvent de 8 à 12 ans, hein, de son origine familiale, de son état de santé, de son caractère obéissant et docile, la famille ou le tuteur devait officiellement signer un document déclarant l'abandon juridique du garçon, la
ouais,
connaissance des risques liés à l'opération, parce que forcément il y a opération, et en renonçant à toute réclamation future. Hein.
Oui, c'était de l'abandon pur et.
C'est ça. À la suite de ça, le futur eunuque recevait un numéro d'identification avec une description physique et une marque administrative sous forme d'une cicatrice ou tatouage, ce qu'il plaçait immédiatement sous la juridiction du bureau des services internes.
Alors j'imagine qu'après le recrutement, il se faisait opérer.
Et
en quoi ça consistait l'opération,
bah,
Didier ?
Bon,
on s'en doute un peu.
C'est ce que j'allais dire, on sait où ça se passe. L'opération n'était pas pratiquée par des médecins classiques, mais par des spécialistes itinérants, indépendants, appelés coupeurs ou tailleurs.
Ouais.
Ils étaient connus, recommandés et surveillés, car un eunuque qui mourait avant son entrée dans le palais était une perte pour l'administration. Ces spécialistes transmettaient leur savoir de père en fils ou de maître à disciple.
Oui.
L'opération se faisait le plus souvent entre 7 et 12 ans, car le corps récupérait plus facilement, mais aussi parfois à l'adolescence et plus rarement à l'âge adulte. Elle se déroulait dans un lieu neutre, hors de la cité interdite, sur une table ou un lit, avec l'aide de deux ou trois assistants, presque sans anesthésie.
Ouf.
Et oui, dans des conditions d'hygiène très approximatives, on l'imagine
oui,
bien.
Oui, oui, oui.
Dans la très grande majorité des cas, c'était l'ablation de tout l'appareil génital externe qui était pratiqué. Ce qui était retiré s'appelait le trésor. Il était placé immédiatement dans un vase contenant souvent du sel ou des herbes, et ce trésor était remis à la famille ou à l'eunuque lui-même pour être conservé toute sa vie. Les eunuques devaient être enterrés avec leur trésor complet, selon la tradition confucéenne.
Ah oui, il fallait être complet.
C'est ça.
Ah, ça devait être très traumatisant, avec beaucoup de risques post-opératoires, j'imagine.
J'ose même pas imaginer, moi.
Oui. Ben moi non plus.
Il y avait une forte mortalité après l'intervention, car l'aspect le plus délicat était de maintenir l'urètre fonctionnelle. Le risque infectieux était aussi énorme. Le garçon restait ensuite sous surveillance pour s'assurer qu'il pouvait uriner normalement, marcher sans douleur et supporter les tâches à venir. La guérison variait entre 20 et 40 jours. Une fois le garçon guéri, un inspecteur du palais vérifiait l'intégrité de l'opération, la cicatrisation et la récupération physique. Si elle était acceptée, il devenait alors novice, puis eunuque junior, assigné à des tâches simples, désormais coupé du monde extérieur pour vivre sa vie entière au service de l'empereur, sauf exception.
Oui, alors précise-nous un petit peu leur rôle dans la cité interdite, on l'a un petit peu évoqué déjà.
Alors les eunuques étaient des médiateurs et des messagers de la vie interne de la cité interdite. Leur rôle dans le palais intérieur était essentiel, ils étaient les gardiens du harem, personne ne pouvait passer les portes des appartements impériaux sans leurs autorisations. Les eunuques étaient aussi les seuls hommes autorisés à accompagner l'empereur dans ses déplacements privés. Ils géraient ses vêtements, son bain, ses repas et restaient avec lui toute la nuit pour sa sécurité. Mais leur mission la plus délicate était de servir d'intermédiaire entre les concubines et l'empereur et d'organiser les rituels protocolaires des rencontres et en notant les dates, comme tu l'as précisé. C'était aussi les eunuques qui surveillaient l'état de santé des concubines quand elles étaient enceintes.
Un rôle très important.
Bien sûr.
Alors, ils étaient rémunérés pour tout ce travail
Oui, selon leur rang, car ils pouvaient être promus, leur grade évoluait selon la loyauté, l'ancienneté, leur efficacité, puis selon leur proximité avec un membre puissant de la cour. Un eunuque pouvait gravir les échelons et devenir intendant principal, eunuque personnel de l'empereur ou même directeur du bureau impérial. Certains avaient même atteint une influence comparable à celle d'un ministre. Ça dépendait des fonctions. Hein. Ça pouvait être du riz comme de grosses richesses, quoi. Hein.
Oui, bon, enfin oui, c'était pas égalitaire comme principe d'être eunuque. C'est fini, Asialogie, Didier. Bon, moi, je pense qu'on reparlera des eunuques, parce qu'il paraît qu'il y a des eunuques qui sont célèbres, on reviendra.
C'est ça, là, on a vu l'eunuque en général, maintenant, on ira voir les petites histoires, voilà, c'est ça.
Voilà. Bon, Asialogie, c'est fini, les amis, on vous retrouve la semaine prochaine.
C'est
encore très bonne année à tous, une super santé.
Voilà.
Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi à 9h30, le mercredi à 13h et bien sûr en podcast, toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans ou radioalpa.com.
Et voilà, ça change pas pour 2026.
À bientôt.
À bientôt.
Salut.